vous le savez très bien, mais j'ai envie que vous le sachiez
encore mieux.
Pas seulement encore mieux, mais de manière argumentée.
Ça, c'est bien.
C'est-à-dire qu'on est les sources, qu'on sache d'où ça vient. Vous savez d'ailleurs ? Donc, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, l'Akba Omer. On a parlé hier soir beaucoup de Rabbi Shimon Bar Yochai et des secrets du Zohar et tout ça. Mais c'est d'ailleurs, nous, on va pas parler maintenant de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va parler de l'autre côté de l'Akba Omer, de la génération d'avant Rabbi Shimon, à savoir la génération de Rabbi Akiva. Ok ? Quoi ?
Ben, il y a un problème.
Déjà, il y a un problème. On n'a rien dit encore. Pourquoi il y a un problème, déjà ?
Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé.
Comment ça, on ne sait pas ce qui s'est passé ?
Ben, il a décidé de... Je pensais que le Machia, c'était le...
Bar Korva ?
On n'y est pas arrivé encore.
Et ben quoi, quel est le problème ?
C'est pas vrai, hein ?
Hein, deux secondes ? Viens, on regarde, on va rentrer dans le vif du sujet. La Torah. On commence par la Torah. La Torah nous dit Usfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom eviachem et omer ha-tenufa sheva shabbatot temimot tiena ad mimachorat ha-shabbat ha-shevihit tisperu 50 yom veikravtem mincha chadasha la-Hashem. C'est-à-dire ? C'est le verset qui nous parle de Sfirat ha-Omer. C'est-à-dire ? Je connais rien.
Le
okay,
Korban aussi.
Quoi Korban, oui, ben, la vie mincha chadasha la Hashem. Pour amener au Korban à Omer. Ouais. Maintenant, deux secondes. Je ne connais rien. Je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas Bar Korva, je ne connais rien. Je lis ça. Ces versets-là ont une connotation positive ou une connotation négative?
C'est positif.
Parce que on me demande de compter pour arriver à quelque chose de positif. Ouais. D'accord ? De là, bah, tous nos sages vont nous expliquer que la Sfira, c'est comme Isha Shesoferet le Baala. C'est-à-dire qu'elle compte les jours pour pouvoir retourner vers son mari. Donc c'est quelque chose de positif. Ça, c'est sans connaissance, rien du tout. Va nous dire le Sefer HaChinuch. Alors, ces versets-là qu'on vient de lire, c'est dans la paracha de Emor. Donc, le Sefer HaChinuch nous dit « Mishorshe ha-mitzvah al tzad ha-pshat ». C'est quoi l'origine de la mitzvah ?« Mishorshe ha-mitzvah », c'est-à-dire les sources de ce commandement, « mitzad ha-pshat ». « Lefi shekol ikaran shel Israël eino ela Torah ». Toute l'essence du peuple juif, c'est la Torah. C'est pour la Torah que le monde a été créé, et Israël également. Le but de la sortie d'Égypte, c'est qu'on puisse dévoiler la Torah dans le monde. Tant qu'on est serviteur de Pharaon, on ne peut pas dévoiler la Torah. On ne peut pas dévoiler la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ? Pourquoi je n'ai pas peur de dire ça ? Parce que cette phrase, elle peut être fantastique dans la bouche de quelqu'un qui habite à Paris. Le but, ce n'est pas d'arriver en Eretz Israël. Le but, c'est de recevoir la Torah au Sinaï. Donc, pourquoi vous faites toute une histoire du sionisme ? Hein ?
Oui, mais si c'est...
Strasbourg, on peut dire des trucs comme
si,
ça.
Si c'est... le but, c'est de...
Hein, la méadrine, on a le tampon.
Si le but, c'est de recevoir la Torah au Sinaï, on ne peut pas recevoir au Sinaï si on est à Paris.
Non, alors, vous êtes en te dire, Sinaï, Strasbourg, tout d'abord, même combat. Et là-bas, d'accord, j'ai aucun problème. C'est marqué dans la Torah qu'il faut habiter en Israël. C'est le but, il t'a dit, Sheikablu la Torah Bessina, et veikaïmoua. Ok, Kiblu ta Torah, mais c'est le Kayemota, et faut me Kayemimota, ce qui est marqué dans la Torah, on est en Israël, pas à Strasbourg. Ça, c'est pas shoot. En vrai, c'est tellement simple. Il n'y a même pas de problème.
Avec Israël,
de quoi?
Avec
Avec la Syrie, avec la Jordanie.
Ça, tout reconstruire.
Ça, tu peux pas aller pour l'instant en Syrie, en Jordanie, mais tu peux aller ailleurs. C'est aussi
avec le Mashiach.
Mais il y a une autre difficulté, c'est que lui, c'est histoire sans parole. Alors, il te fait plein de digestes, mais il faut le comprendre déjà.
Voilà, voilà. Hein, voilà. Non, il te dit, oui, mais c'est bien d'habiter en Israël, mais quand tu auras le Mashiach. Rabbi Moshe Dileon, Bala Mikilat Esther, on connaît l'histoire. Seulement mal à Assot que personne ne l'a suivi au niveau de la halakha, donc c'est pas très important. Nous dit comme ça. Ou perusha pasuk kelomar otziacha otam bimitzrayim yelecha ot shetavdu et haolim al haratzeh kelomar shetkablu et haTorah sheikar gadol shebishvil ze hem nigalim veitachlit haTovah shelahem veinyan gadol hu lahem yoter min haChirut meHaChirut meAvdut ולכן יעשה השם למשה אות צאתם מעבדות לקבלת התורה, כי התפל עושין אותו אות לעולם אל העיקר. דונק, תוסה, ספרתם לכם, פרויה, בספר החינוך, פרדוסה, פרפור על הספירה, פרטודיר, תשובה הריבה, הממון דונה, הוא יבא עבור קבלת התורה. וזה זה טופ. בסדר? דונק, דאפרי לברסי, דאפרי לאקספיקציון לספר החינוך, ודאי כזאת פריוד, כי את פריוד דו פרפרסיון פרוסובה לתורה, את פריוד פנטסטיק. נכון? פור רשותי אנקור אינקוש, עריב לרמב"ן, אוקיי? אלו רמב"ן, לא עושים לנסון קומנטר דו סוורסה, ונון סולמון רובט אינקוש, מבנו דוני אופלוס אינסטטו פרטיקוליה, עשה ז'ורנלה, כספר לסורתי דג'יפט דו לתורה.
כיסי כי אמר כיסר לו?
ספר החינוך. Il ne me demande pas qui est Sefer HaChinuch parce que ce n'est pas clair.
C'est marqué là, en fait.
C'est marqué là, tu as la source là.
Sefer HaChinuch. Ah ouais, c'est marqué.
Mais ce n'est pas clair qui est le Sefer HaChinuch. C'est ça ? Nous dit le Ramban, « Vetziva bechag amatzot shiva yamim bikdusha lefnehem velachareyem, ki kulam kdoshim uftocham Hashem, umana mimeno tisha v'arbaim yom, shiva shavuot ki meolam, vekidesh yom shemini kishmini shel chag. » De quoi on parle?
Des
journées de Pessah jusqu'au Yom HaShmini chez le Pessah. C'est quoi Yom HaShmini chez le Pessah? C'est quoi? Shavuot. C'est Shavuot, c'est Atzeret.
Cette semaine,
c'est Shavuot. Le Pessah, c'est 7 jours. D'accord? Mais il y a un 8e jour normalement dans une fête qui s'appelle Atzeret. À Sukkot, il y a 7 jours de Sukkot plus Shmini Atzeret. Où est l'Atzeret de Pessah? C'est Shavuot. Qui s'appelle dans la Torah Atzeret. Ok ?
Mais
Enachan ? Mais sauf que dans la Torah, Shavuot s'appelle Atzeret. Atzeret, ça veut dire la Atzor, c'est la fin. C'est la conclusion de quelque chose. Conclusion de quoi ? De Chag HaPessah. Et donc nous dit le Ramban.
On commence à compter après le premier soir de
l'Omer. Oui. Et donc pourquoi ?
On a bien différencié les deux fêtes quand on a dit il y a Pessah et il y a Shavuot.
Et comme on a bien différencié les deux fêtes, il y a Sukkot et il y a Shmini Atzeret.
Shalosh.
Oui,
ça
n'a rien à voir. Non, non.
Quand on parle de Shabbat, on parle bien de Pessah.
Bevadaï, Bevadaï.
Shabbat est bien distinct de Pessah.
Et Shmini Atzeret est bien distinct de Sukkot. Bevadaï.
Ah,
ben non. Il y a Shalosh Pamim Bashana, Yirai, Kol Zechou, Echad, Pene, Adon Hashem. Chez eux, Pessah, Shavuot et Sukkot. De rien. Mais il y a trois autres fêtes qui sont bien distinctes et qui ont une autre dimension puisque tu ne vas pas aller voir Pene Hashem. Mais tu vas aller voir l'Ifnaï et l'Ifnim. Pas Pourim, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, ouais. Shmini Atzeret. Ou dans ces trois fêtes-là, tu ne vois pas être peiné Hashem, mais tu vas encore plus profondément, tu vas l'Ifnaï et l'Ifnim. On dit la Gemara, Yom HaKippurim, c'est pas shoot. C'est le moment où le Kohen Gadol y rentre, l'Ifnaï et l'Ifnim, en Kodesh HaKodeshim. Rosh Hashanah, Tokim Bashofar, Mayat HaGemara, Mikevan, שהשופר הוא לזיכרון, מכיוון זה לזיכרון כעתה, כלפני ולפנים דמי. כמו זה לשופר עם פנינים, התורה, יקר העין פנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. נמשיבה, תשעת רואה פט, דונקל תורנט, לראות את פני השם, כיסון ביאן דיסטנק, פסח, שבועות, סוכות, את תשעת רואה פט, תורנט לפני ולפנים. זה עוד יותר פנימי מהפנים, Chezé, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Shmini Atzeret. Donc c'est six fêtes complètement distinctes. Maintenant, où est-ce que tu peux voir aussi cette séparation-là? Eh bien, si je regarde dans la paracha de Pinchas, des Korbanot, eh bien tu vois que c'est le même Korban à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, C'est pas le même Hashmini Atzeret. Non, je ne peux pas parler de Soukot. Non, ils ont à chaque fois des choses particulières. Mais le Korban, parce qu'à Soukot, tu vas me dire, il y a des Korbanot pour les Motaolam. Il y a aussi un Korban pour Israël. C'est-à-dire, mais Hashmini Atzeret, ce n'est pas le même style. Ok ? C'est pas le même Korban. Donc il y a une vraie différence entre Hashmini Atzeret et le reste des autres.
Il y a une différence entre Hashmini Atzeret de Soukot et Hashmini Atzeret de Pessah.
Nakhon. Bah, y a pas de problème.
Non,
c'est pas la même fête.
Il appartient à un groupe et l'autre à un autre groupe.
Mais y a pas de problème. On n'est pas obligé que ce soit la même chose. Ah. Je dis simplement que ce sont des fêtes distinctes. D'accord ?
Au sujet des Korban.
Oui.
Le Korban, on parle spécifiquement de Korban après ça.
Oui.
Shavuot, on ne parle pas de Korban.
Bien sûr que si. C'est marqué. C'est marqué dans la paracha. De Pinchas.
C'est ça, je ferai attention.
Eh ben, c'est pour ça qu'on est là.
Et pour comment?
Pour Soukot.
Soukot.
Ben pareil, parachat de Pinchas. Tu regarderas un parachat de Pinchas, c'est là qu'il y a la liste de tous les corbanotes de chaque fête.
Donc si on rajoute aux 6 fêtes, que tu viens de dire maintenant, on rajoute pour une Hanouka, ça fait 8.
Oui.
Et on rajoute les 12 pour Kodesh.
Ok, si tu veux.
Ça fait 20.
Et donc
20, c'est l'infini, ça va.
20, c'est l'infini.
Oui, créer Esrim, tu vas voir. C'est marqué 620. J'ai écrit.
J'ai pas compris.
En hébreu,
ouais.
Ça fait 620. Si c'est 2, 8. C'est l'infini.
Et 620, c'est l'infini parce que si c'est 2, 8.
8.
Alors, j'ai pas de problème. Je veux juste pas te casser ton truc.
Ouais.
Mais comment on fait avec Pessah Sheni? Que tu n'as pas mis dans le compte. Quand tu es avec Yom HaTzmaout, Yom Yerushalayim, que tu n'as pas mis dans le compte. L'Akba Omer, que tu n'as pas mis dans le compte.
Oui.
Comment tu fais avec Tubishvat, que tu n'as pas mis dans le compte.
Oui. Tubishvat, c'est une fête.
Et
ça sera une fête. Ouais.
Ça sera une fête. Et Yotet Kislev aussi, ça sera une fête. Ah, on arrive à 26.
26, c'est vrai.
Ah.
Et 26, 6 et 2.
C'est toujours pareil.
Non, mais quoi,
tu comprends? C'est la même chose. Mais bien sûr. Et tu sais bien que le mot chulent, ça a la gematria de Shabbat. C'est la même gematria que Shabbat. Et si ça tombe pas vraiment juste, t'as qu'à rajouter un peu de chulent. Donc tout ça pour dire que le Ramban nous dit qu'il y a dans ces versets-là. Et dans la fête de Pessah jusqu'à Shavuot, on dit Vayamim asfurim bentaim kechulo shel moed ben arishon vehashemini bachag vehu yom matan Torah sheheram bo et isho agedola udvarav shamu mitoch haesh. On dit le Ramban, la période qui sépare Pessah de Shavuot, de la même façon que à Sukkot, il y a le premier jour de Yom Tov de début, le dernier jour de Yom Tov. À la fin, au milieu, c'est Chol HaMoed. Eh bien, pareil pour Pessah, où il y a le premier jour de Yom Tov et Shavuot, le dernier jour de Yom Tov. Au milieu, Chol HaMoed.
Dans les faits, c'est faux. Parce qu'on fait Tachanou.
Deux secondes. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans les faits. Je dis, le Ramban nous dit, la période entre Pessah et Shavuot est une période de Chol HaMoed. Ça veut dire quoi, Chol HaMoed? Ça veut dire Simcha. Ça veut dire on est au top. Bon, ça veut dire on se rase pas. Parce qu'à Chol HaMoed, on se rase pas. Mais pas pour des raisons de deuil. Vous savez pourquoi on se rase pas à Chol HaMoed?
Le repos de la peau.
Le repos de la peau. Pourquoi on se rase pas à Chol HaMoed?
C'est Hatiha.
Non, parce qu'il y a du Moed.
Ou So?
So, quand c'est du Moed, en général, on se rase pas, non?
Ouais, ça, on part, pourquoi? Parce que Yom Tov, parce que Melacha. C'est ça que tu veux dire? Parce que si tu me dis ça, je te dis, alors pourquoi tu vas en voiture chez ta sœur? Non, on ne se rase pas à Chol HaMoed parce qu'on ne veut pas que tu sois un glandeur. C'est-à-dire qu'on veut que tu honores la fête. Parce que si tu vas pouvoir te raser à Chol HaMoed, tu peux très bien dire, « Ah, je n'ai pas eu le temps de me raser avant Pessah, avant la fête, avant Yom Tov de Pessah. C'est pas grave, je me raserai demain soir à Kol Tov. » Genre, je n'ai pas eu le temps. Non, tu prendras le temps pour te raser avant le début de la fête. Pour être propre et bien prêt pour la fête. Donc, je t'interdis de te raser à Chol HaMoed pour que tu le fasses avant. Il n'y a pas un interdit en soi.
Ouais.
C'est-à-dire,
ouais,
c'est pour que tu sois prêt pour la fête. Et pas que tu te dises, j'ai le temps d'eux.
Mm-hmm.
D'accord? Mais enfin bon, ce n'est pas important le rasage. Ce qui est important, c'est que la période entre Pessah, Shavuot, Sfirat HaOmer, c'est une période de joie. Et c'est une période de joie des Oraita.
Parce qu'on On monte de niveau, on fait commenter le niveau.
On monte pour se préparer à recevoir la Torah. Vadaï que c'est une période de joie.
Pourquoi dans cette période on nous a mis le deuil des...
Oh, il a fait. Donc tu comprends là où je veux en venir.
C'est une période de joie qui a entaché de deuil.
Il a fait. Donc la question qui va nous intéresser ce matin, c'est de dire si c'est une période de joie et c'est une période de joie, alors comment ça se fait qu'on a transformé ça en période de deuil? Et quand je dis on a transformé ça, vraiment, on l'a transformé à tel point que ce n'est absolument pas, à un moment donné, on a décidé que c'est des minagim qui vont se rajouter sur des minagim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de halakha de Avelut pendant Sfirat HaOmer. Bien sûr que ça va être marqué...
J'ai des minagim.
Voilà. Bien sûr que ça va être marqué au final dans le Shulchan Aruch. Bien sûr. Mais quelle est l'origine de... Non, mais c'est important. Parce que par rapport aux trois semaines, où tu vas avoir aussi une période de deuil entre Tzet Tammuz et Tisha B'Av, c'est déjà Dina de Gemara. C'est déjà dans la Gemara, on va t'expliquer qu'il faut complètement changer sa façon d'être.
L'interdiction de se marier, l'interdiction de faire la nuit.
Toutes les interdictions qu'on a copiées-collées pour le Homer, c'est les interdictions qu'on avait déjà mises en place pour les trois semaines.
Ok.
Ok, et je dis simplement que les trois semaines, c'est quelque chose qui est déjà marqué dans la Gemara. Or, rien du tout sur les Avelut de Sfirat HaOmer dans la Gemara.
C'est genre des Rabbanan, t'as raison.
J'ai aucun problème que ce soit des Rabbanan. Je dis que là, c'est pas des Rabbanan, c'est Minag, qui va devenir au fait à un moment donné à l'Acha. Le Shulchan Aruch, il a le droit d'être possèque à l'Acha, un Minag. J'ai pas de problème.
Ça y est, c'est terminé.
Mais oui, d'accord, bien sûr, c'est terminé. Mais il y a une différence de poids dans le judaïsme. Si c'est quelque chose qui a été écrit dans le Shulchan Aruch, mais que tu ne vois pas dans le Rambam, que tu ne vois pas dans les Géonim, et que tu ne vois pas dans la Gemara, et quelque chose qui prend ses sources déjà dans le Talmud. Je te rappelle que le dernier texte qui est Mechayev et Kol Israël, c'est le Talmud. Le dernier texte qui oblige tout le peuple juif à le suivre, c'est le Talmud. Après le Talmud, il n'y a plus rien qui oblige tout le monde. Donc le Shulchan Aruch, il peut écrire ce qu'il veut. Les Ashkenazim, ils ne vont pas le suivre. C'est uniquement si c'est marqué dans le Réma qu'on va le suivre. Tu comprends? Donc c'est pas... Oui, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais je dis qu'il y a une différence de poids entre les trois semaines et Sfirat HaOmer. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, on a tendance à être beaucoup plus laxiste sur les trois semaines que sur Sfirat HaOmer, au niveau de la Avelut. Pour plein de raisons. La première d'entre elles, c'est qu'on est en juillet août. Et les gens, ils ont envie d'être en vacances. Caché méode, ils ont envie d'être en vacances, les gens. Et c'est très dur pour des gens qui veulent partir en vacances de se dire, ah ben non, c'est les trois semaines, je peux pas aller en vacances. Ah ben non, je peux pas aller faire des jeux avec mes enfants dans l'eau. Ah ben non, je peux pas aller faire un truc. Ah ben non, je peux pas aller ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous les jeunes qui partent en colonie de vacances en juillet-août? Hein, cette année, les trois semaines, c'est tout le mois de juillet. Ah, génial. Toutes les colos de vacances,
les trois semaines,
entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, qui sont des vrais moments de deuil. C'est-à-dire, alors comment on fait?
Il y a toutes les colos.
Ouais. Ah, le vendredi, c'est moutard, le Shabbat.
Pour les
ailes. Pour prendre la douche. Ouais. Ah, aux ailes,
c'est l'arrivée des
C'est ça. Mais qui te sort à bataille?
Chez nous, en Algérie, c'était
qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Très difficile.
Mais bien sûr.
La chaleur.
Non, mais
on ne peut pas aller à la plage, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas...
Alors.
C'est pas exactement comme ça.
Quoi?
C'est la meilleure période pour aller à la plage.
Alors que pendant Sfirat HaOmer, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Ça là. J'ai demandé à un moment donné. Ça là. Pourquoi tu nous le voles?
Hein?
Pourquoi tu nous le voles?
Non, je vous le rends.
Je vous le rends. Attention, hein.
Ah, c'est pour la lumière.
J'ai demandé à un rabbin, je ne sais pas si vous connaissez, le Rav Yehuda Ben Ishaï. Je lui ai demandé il y a quelques semaines. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, il est en France, il voulait faire une grosse journée pour Yom HaAtzmaout, mais c'était pas le jour de Yom HaAtzmaout, c'était le dimanche. Parce qu'il a dit, les gens ne viendront pas le mercredi, ils travaillent, machin, je vais faire le dimanche pour la communauté. Et est-ce que j'ai le droit de mettre la musique et tout? Alors j'ai demandé au Rav Ben Ishaï. Et il m'a dit, c'est fantastique parce que, bon d'abord, oui, bien sûr qu'il a le droit. Et la raison, elle est très simple. Il dit, pour les trois semaines, on permet des choses bien plus graves que la musique pour les Karev Yehoudi. Il n'y a qu'à voir, Taglit, tous les groupes de jeunes qui arrivent en Israël, que tu emmènes à la piscine, à la plage, à la machin, les attractions les plus folles, machin, pendant les 3 semaines. Tout ça parce que ça va te permettre de pouvoir les rapprocher d'Israël, les rapprocher à la Torah, les rapprocher à truc. Alors, tout est permis. Alors, tu me poses la question de faire une journée d'Yom HaAtzmaout pour rapprocher les Juifs de Chutz La'aretz et tout machin. Et tu me poses la question, il faudra mettre de la musique alors que la musique, c'est marqué nulle part dans la halakha qu'on n'a pas d'écouter la musique dans les Sfirat HaOmer. C'est vraiment minag de minag de minag. C'est-à-dire ? Donc, les amis, Sfirat HaOmer, bien sûr que dans les faits... Hein ? Il y a le coup de sauce, c'est il y a 2 jours.
Quoi ? D'accord.
Non, mais c'est tu comprends. C'est... Non, mais... tout à l'heure, tu m'as parlé du Shulchan Aruch, maintenant, tu me ramènes Yakout Yosef. Non, mais ça, donne-moi un papier, moi aussi, je vais te l'écrire. Zélo Aïnian, tu comprends? Le fait qu'aujourd'hui, tous les siffrés à l'Acha, tout le minag de Pitchepoil, eh ben, on va te le marquer dedans, et ça devient Zélo Todavar. Tu peux pas me donner le même poids au niveau halachique d'un livre qui a été écrit il y a 2 jours et demi. Et le Talmud et les Géonim, c'est la cavode. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est marqué dans la culture de Joseph, c'est même pas marqué dans la Bira Omer. Ça, c'est même pas le Rav Ovadia. C'est son fils. Alors, peut-être que son père, il lui a dit de l'écrire, peut-être. Mais je peux pas me comparer ça à ça. C'est pas possible. Ça a l'air. Maintenant, moi non plus, j'écoute pas de la musique. Nahon. Mais, Enbaya. Mais je veux comprendre que, attendez 2 secondes, la période est une période de joie. C'est une période de joie d'après la Torah, et on a rajouté dessus une période de deuil qui est, dans les faits, comme tu dis, ultra respectée dans le monde religieux, bien plus que la vraie période de deuil des 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Oy vay voy. Est-ce que Bémet, c'est uniquement parce qu'il y a 24 000 gugus qui ont chopé le corona ? Est-ce que c'est parce qu'il y a 24 000 mecs qui ont pris une épidémie ? Parce que moi, je ne comprends pas à ce moment-là. Pourquoi est-ce que les rabbins, ils n'ont pas décrété de faire un nouveau moment de deuil pour les gens qui sont morts du corona ? Il y a eu plein de juifs qui sont morts du corona. Non ? Il y a plein. Je n'ai pas compté.
12 500 personnes qui sont mortes du corona.
Où ?
À la télévision.
Mais où ? En Israël ?
En Israël.
En Israël ?
10 000 dans le monde.
Ah, le problème, c'est Sinatrinam. Mais ça, on fait déjà pour les 3 semaines.
Il y a des grands rabbins
encore plus. Ah, donc encore plus, nous. Et pourquoi on ne fait pas une autre période ? C'est pas ce qui a marqué. Mais tout.
Non, non, mais écoute.
Oui, mais il y a des rouges.
Ah, parce que
dans l'histoire,
s'ils n'étaient pas morts, tu aurais fait quand même ? Ah, il y a fait.
Mais dans l'histoire, il y a eu combien de périodes ?
Merci beaucoup. Pourquoi on ne fait pas une autre période de deuil pour la Shoah ? 6 millions, c'est pas mal comme chiffre. Pourquoi on ne fait pas un deuil pour tous les juifs qui sont morts pendant toutes les épidémies de l'histoire ?
Comme Talmidim.
Mais on fait plein de
plaies. Plus que pour le monde de la Torah, c'était que.
Quel monde de la Torah ? De quel tu parles ?
Apparemment, c'était que
pour la Shoah ?
Non,
ah, les 24 000 élèves. Donc, il n'y avait pas d'autres rabbins.
C'est la fin de la Torah, après.
Ah, ben, Vadaï.
Ce qui se dit,
Ce qui se dit. Donc, Rabbi Akiva était le seul rabbin de l'époque.
Avec cet aminé.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres rabbins ?
Apparemment.
D'accord. Et t'es sérieux quand tu me dis ça ? Non, mais ne me dis pas que t'es sérieux. Ne serait-ce que la ligne qu'on va lire dans 2 secondes, qui nous dit qu'à la fin, une fois qu'ils sont tous morts, Ad Sheba Rabbi Akiva et Tsel Rabotenu Sheba Darom. Ne serait-ce que ça. Donc il y avait d'autres rabbins ailleurs, qui avaient d'autres Batei Midrash.
C'est sûr qu'il n'était pas seul.
Non, mais ça ne peut pas être un argument. Tu ne peux pas être sérieux comme argument. Parce que si tu me dis que c'est ça l'argument, alors c'est encore pire. Parce que ça veut dire que. Alors il n'y avait pas de Torah alors, à ce moment-là. Parce que ces élèves-là, moi je suis désolé, je vais le dire, hein, je suis enregistré, hein, et peut-être qu'on va me tomber dessus. Mais pour moi, ces élèves-là, ce n'est pas les Talmidei Chacham, non ? Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, je ne les considère absolument pas comme étant des grands de la Torah. Absolument pas. Et venez pas me dire que maintenant, dans le Zohar, on va nous expliquer qu'il y a un Gilgul Neshamot et tout ça. Les amis, j'ai aucun doute.
Par contre, c'est 24 000 avec Shrem, avec.
Si tu veux, on fait autant de rapports que tu veux. Moi, je suis Tachles. Bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire une chose, et faites preuve un tout petit peu de réflexion et d'esprit critique. 24 000 élèves, j'ai aucun doute. Qui connaissaient tout le Talmud par cœur, qui n'existait pas encore, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, j'ai aucun doute que dans leur érudition de la Torah, ils étaient très grands. Mais c'est par cœur.
C'était sûrement pas les seuls.
Tu sais quoi ? Même si tu me dis que c'était les seuls, je suis d'accord avec toi, c'était pas les seuls. Mais même si tu me dis que c'était les seuls, excuse-moi, qu'est-ce que j'en ai à faire d'un rave qui connaît tout le Talmud par cœur, mais qui dit des gros mots ? Qui crache par terre, qui respecte les gens, que quand il regarde les gens, il leur parle mal. Je dois apprendre de lui la Torah?
C'est Chilul Hashem.
C'est Chilul Hashem! C'est Racha! Mach Patli, qui connaissent tout le Talmud par cœur, Imulono et Kavod. C'est basé. Qu'est-ce que je m'en fiche que le mec il connaisse la Torah si sa Chavruta n'est pas capable de lui parler bien? Donc tu es en train de me dire que toute la Torah repose sur des mecs qui sont des pourris au niveau de leur midot. Pourris au niveau de leur midot. Lona agu kavod zebazé. Zelo sinatrinam. Zé lona agu kavod zebazé. Ma zé Torah. Zelo Torah. Je m'en tape. Excuse-moi qu'il soit mort. C'est pas pour des gens comme ça que je vais faire un deuil. Tu veux que je te dise la preuve? T'as pas appris la Torah 2. Ils t'ont enseigné quelque chose, ces 24 000 élèves?
Mais avant.
Avant peut-être.
Avant,
t'en connais un?
Leur maître, oui.
Leur maître. Tu sais ce qu'il a pris comme claque, Rabbi Akiva? Il a formé 5 autres Talmidim après. Et c'est d'eux que t'as appris toute la Torah. Tu connais un des noms des 24 000? Une Mishnah, une Braïta, un truc, quelque chose? Amar Talmidoy Shel Rabbi Akiva. Kloum! Alors quoi? Deux, tu vas apprendre quelque chose?
Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de...
Non, en vrai, il n'y a pas de questions. Je suis désolé, il n'y a pas de questions. Des mecs comme ça, je ne veux pas apprendre de la Torah. Excuse-moi, quand tu as un grand rabbin d'Israël qui a passé un séjour en prison pour blanchiment d'argent, c'est Torah? C'est Torah?
Catastrophe.
Alors, Mavine! Et c'est moins grave de blanchir de l'argent que de l'on a à goût qu'à votre basé. Alors quoi? Donc, les amis, je repose ma question. Pourquoi on a fait de cette période de joie une période de deuil pour des mecs qui n'en valent pas la peine?
Parce que dans cette période très plus courte de l'histoire, il y a eu des drames qui se sont faits comme un peu des croisades, par exemple.
Non. Ne me rajoute pas les croisades maintenant.
Bah, les croisades, il y a quelques années de ça.
Et... Mais quel rapport entre croisades et Sfirat HaOmer, Rachab?
C'est rentré dans cette période.
Ah, tu dis, c'est un fourre-tout. On met un peu de tout dedans.
Peut-être on aurait tendance à faire ce truc, à se faire son œil par rapport au nombre, à la quantité de personnes.
Mais c'est Kloum!
Mais si tu peux me répondre. Tu peux me répondre qu'il n'y a pas que. Il y a eu d'autres histoires dans le monde et on ne prend pas le deuil pour ça.
Mais c'est ce que je te dis. Ouais. Si tu me dis c'est le nombre, 24 000, ouais, avec tout le drame que chaque famille représente, c'est rien du tout. Je te dis, rien que je t'ai parlé du corona, il y a plus de. J'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il y a eu plus que 24 000 juifs qui sont morts du corona. Dans le monde entier. Alors quoi? Dans le monde entier. C'est-à-dire, la peste noire. Il y a plus que 24 000 juifs qui sont morts de la peste noire.
Il y a eu plusieurs.
C'est-à-dire, des épidémies, et malheureusement, il y en a eu. Top, Azrabotaï, venez, on y va. La source numéro 4. Nous dit le Rambam, Ilchot Melachim, chapitre 11, Alacha Vav. Al Yale al Da'atra. Surtout ne pense pas. Shamelech HaMashiach, Tzarich La'asot Otot Umoftim. Que le Mashiach doit faire des miracles. Surtout ne le pense pas. Umechadesh Dvarim Ba'olam, et qui doit faire des nouvelles choses dans le monde. Omechayem Etim, ou qui doit ressusciter les morts. Vechayotse Badvarim Elu Shatipshim Omrim. Oui, le Rambam, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. D'accord? Nous dit le Rambam, ne pense pas que le Mashiach va faire des miracles comme le disent les débiles. Point. Ok, d'où il apprend ça? Parce que bon, moi je veux bien. Mais d'où il m'apprend ça? She'are, c'est là, en adavarken, c'est pas comme ça. She'are, et ma preuve c'est quoi? Rabbi Akiva, chacham gadol, mi chachme mishna aya. Mazé Chacham Gadol. C'était pas un grand sage. C'était Gdolador. Ha Chacham Gadol. C'est Rabbi Akiva, c'est le patron de tous les Chachamim de la Mishnah. Vehu aya nosé kelav shel ben kosva amelech. Et il était l'écuyer de Bar Korva. Vehu aya omer alav shehu amelech HaMashiach. Et il disait de lui que c'est lui le Mashiach. Vedimahu vechol chachme doro. Chez où Amelech HaMashiach? C'est pas que lui qui pensait ça. C'est tous les rabbins de sa génération, les rabbins de la Mishnah, pensaient que Bar Korva c'était le Mashiach. Atchenehrag Bavonot, finalement il a été tué, et Kevan Chenehrag Noda Sheino Mashiach, comme il est mort, bah, il n'a pas fait le boulot, donc il n'est pas Mashiach. Velo Shalou Mimeno Chachamim Lo Hot Velo Mofet. T'as vu? Et ils ont essayé, ça n'a pas pris. Personne n'a demandé à Bar Korva qu'il fasse des miracles. Alors pourquoi il pensait que c'était le Mashiach?
Peut-être la pensée de l'époque était que c'était un gibor, que justement que le peuple juif attendait.
Yofi! Donc, c'est pas, il pensait. Halakha, le Rambam, il amène ça dans les Ilchot Melachim. Et dans le chapitre 11 qui parle du Mashiach. Donc, il vient nous apprendre qu'est-ce qu'on doit attendre du Mashiach. Nous dit le Rambam, le Rabbi Akiva et les Chachmim de la Mishnah, il voit ce qu'il fait Bar Korva. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait?
Il gagne des guerres.
Il fait la guerre contre les Romains. Il fait la guerre contre les Romains. Il veut nous débarrasser des Romains. Il veut ramener l'indépendance du peuple juif. Il dit, ah, ben, bah, ça, c'est le Mashiach. Ouais. C'est ça qu'on attend du Mashiach. On n'attend pas de lui qu'il soit le Gdol Ador, le rabbi de son époque. On n'attend pas de lui qu'il soit le mec le plus spirituel de l'histoire. Non. On attend de lui qu'il fasse la guerre. S'il faut faire la guerre. Qu'il soit le chef politique du peuple juif.
Il a à cœur de délivrer le peuple.
C'est tout. Ouais. C'est ça qu'on attend de lui. Alors après, le Rambam, il va faire une liste des autres choses qu'il doit avoir comme qualité. Il doit aussi être religie. Ogé ba Torah ke David Aviv, ke Torah Shebirta ou Torah Shebealpe. Il doit respecter la Torah et être pratiquant. Ça veut dire. Est-ce que Bar Korva était pratiquant? Oui. À sa manière. On a retrouvé, par exemple, des lettres qu'il envoie à la ville de En Gedi. C'est fou, ça. On a retrouvé la lettre que En Gedi. Tu connais En Gedi, les sources, il y a un village. Eh bien, il envoie la lettre là-bas que les gens de En Gedi doivent, par ordre du roi, prodiguer à toute l'armée
Bar Korva. Hein.
Bar Korva. Il envoie la lettre et il signe Shimon Ben Kozvan, Nessi Israël, et il dit, vous devez, par ordre de l'État, amener pour Soukot Arbat Aminim pour toute l'armée. Parce que c'est chez vous que ça pousse.
Ah ouais.
Donc vous devez nous amener, nous prodiguer Arbat Aminim pour tous les soldats. Chag HaSoukot. Ah, Khashouv. On a retrouvé les tefilines des soldats de Bar Korva.
Wow.
La vache. Ça va. D'un autre côté, il a... Son rapport avec la Torah et les rabbins est compliqué.
Peut-être compliqué. Il était trop pur.
Je sais pas, je veux pas dire. Est compliqué. Par exemple, avant de partir en combat, qu'est-ce qu'il dit? Il fait une tfila à Dieu avant de partir en combat. C'est quoi la tfila qu'il faisait à Dieu avant de partir à chaque combat? Ribono shel olam, s'il te plaît, n'interviens pas. Ok? Sois pas contre nous, mais ne nous dérange pas non plus.
Ah bon?
Laisse-nous, ah bon. Laisse-nous gérer. C'est un manque de émouna, c'est pas un manque de émouna. Bah, il demande à qui de ne pas intervenir? Il demande à Dieu de ne pas intervenir.
Bah, il faut être fort. Hein.
C'est ça? Bah, c'est il avait un test pour entrer dans son unité. C'était de se couper les pouces. Alors, pas les pouces, un des pouces. C'est-à-dire, il faut être capable. Ah, tu veux montrer que tu es un vrai gibor? Coupe-toi le pouce.
Et après pour manier les armes.
C'est quoi de boyou?
Alors c'est pour ça que j'ai entendu une fois. Hein, tu comprends pourquoi il a demandé de couper le pouce? Parce que Bar Korba, il aimait pas les rabbins, il aimait pas la Torah, et il savait que dans la Torah, quand on étudie la Gemara, on fait comme ça. Et il voulait pas qu'il fasse comme ça. Alors il a dit, il faut que je coupe le pouce. Ce que je te dis, qu'il y avait pas de Gemara à l'époque et que donc on pouvait. Mais évidemment qu'il se coupait pas le pouce. C'est un machal. Comment tu veux prendre l'arc et les flèches, machin, sans pouce? C'est compliqué. Alors après, son oncle, à Bar Korva, c'est qui son oncle?
Rabbi Abba.
Non, Rabbi, t'as raison. Rabbi, là où j'habite. Rabbi Elazar Amodei. J'ai l'honneur d'habiter dans la rue de l'oncle de Bar Korva. C'est pas rien.
C'est très... Quand on passe là, on voit les rues.
Mais bien sûr, mais bien sûr, je plaisante quoi.
Je rêve.
Mais Kitsour, Rabbi Elazar Amodei lui dit.
Tu marches dans le.
Nous bémet admatay ata osé Israël baalé moumim. Jusqu'à quand tu vas faire des juifs, des estropiés? Ah bah. Il dit ouais, mais comment je vais faire pour savoir qu'ils sont vraiment giborim? Alors il dit moi j'ai une idée. T'as qu'à proposer comme test que pour entrer dans ton unité, il faut que à cheval. En galopant à cheval, tu sois capable d'arracher un cèdre du Liban.
D'arracher quoi?
Un cèdre du Liban, un arbre. Bon, tu comprends que donc ni ils se sont coupés les pouces, ni ils ont arraché des arbres. Ça veut dire, parce que finalement, Agmar va nous dire qu'il avait 200 000 soldats à pouces coupés et 200 000 soldats à arbres arrachés. Nous, Bémet. C'est des méchalim. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Rambam, il ne se pose pas la question. Il a dit, c'est Mashiach. Alors, on ne fait pas un cours pour parler du Mashiach. On fait un cours pour parler de pourquoi on est en deuil. Rabbi Akiva, il est le soutien numéro 1 de Bar Korva. D'accord ? Bessède. Une fois qu'on a dit ça, on peut arriver à la source numéro 5. La source numéro 5, c'est la source que tout le monde connaît dans Maseret Yevamot, dans la Gemara, qui nous dit comme ça. Amrou, 12,000 zugim talmidim ayu lo le Rabbi Akiva. Il avait 12,000 couples d'élèves, d'où les 24,000. C'est ça ? Migivat ad Antipatres. Givat, à côté de Ashkelon, Antipatres, à côté de Naharia. C'est-à-dire, donc, en gros, ils étaient tous réunis. Déjà, ils étaient tous dispersés dans tout le pays. Donc déjà, tu enlèves l'idée que Rabbi Akiva, il avait un grand bête midrash, Mosdot Rabbi Akiva. C'est-à-dire que ces mecs-là, c'est les élèves de Rabbi Akiva, mais combien de fois ils voient leur maître ? Combien de fois ils le voient, Rabbi Akiva ? Bah, en vrai, pas tellement. Ils sont répartis dans tout le pays. Où ils vont au cours de Rabbi Akiva ? Je crois tous les vendredis, ils prennent un bus et ils viennent, ils font un zoom. Ils font un zoom. Donc tu commences à comprendre que l'un des grands problèmes qu'ils avaient, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas des Talmidei Chachamim. Parce que c'est quoi ce qui leur manquait ? Shimush Talmidei Chachamim. Alors combien de fois ils ont vu Rabbi Akiva ? Pas souvent. Ils ne peuvent pas là. Ils ne sont pas là.
Shimush,
c'est quand tu es au contact du Rabbi. Et c'est là que tu apprends quoi ? Les Midot.
Et comment ils faisaient pour la rassembler ?
Mais il ne peut pas ! Donc c'est-à-dire que Rabbi Akiva, il allait enseigner. Donc il allait là. Ce soir, il y a un grand cours de Rabbi Akiva ici. Et donc les mecs qui étaient pas trop loin, ils venaient.
Le Braille, c'est celui qui vivait avec, qui dormait avec les élèves.
Ben non, on te dit que non.
Ben justement, ce n'est pas les élèves.
Mais c'est exactement ça. Il avait des élèves, d'accord ? Mais ils ont appris de Rabbi Akiva. Ils ont appris de Rabbi Akiva les études.
Ouais.
À chaque fois qu'ils venaient donner un cours, c'était des mecs très érudits, certainement, et ben, ils écrivaient tout, pas de problème. Mais le contact avec le Rav, duquel tu vas apprendre les qualités humaines du bonhomme, ben ça, non.
C'est comme le fils de Rabbi Shimon qui a appris auprès de son père.
Parce qu'il est au contact. Ok ? Mais ça, donc, Mikivat en antipatres. Vechulam metu beperek echad. Nipne shelona agu kavod zelazé. Ils sont tous morts en une fois. Alors, on ne te dit pas comment, mais on te dit moralement parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Vaya olam shamem. Et le monde était affligé. Ad sheba rabbi Akiva etzel rabotenu sheba darom. Veshina lahem rabbi Meir, rabbi Yehuda, rabbi Yossi, rabbi Shimon, rabbi Elazar ben Shamua. Finalement, rabbi Akiva il a mis en place 5 nouveaux talmidei chachamim. Vehem emidu Torah otasha. C'est eux qui ont amené la Torah. Et effectivement, 80% des enseignements de la Mishnah, c'est ces 5-là. Ok ? Ben
c'est
là. Ça, c'est dans Yevamot. Tana, toujours dans Yevamot. Kulam metu mi pesach ve'ad atzeret. Dans les manuscrits qu'on a retrouvés de la Gemara, il n'y a pas marqué ad atzeret, il y a marqué mi pesach at pros atzeret. Mais c'est pros atzeret, c'est la moitié. Ce qui nous amène au 18 Iyar l'Agba Omer. De là, on dit qu'ils ont arrêté de mourir à l'Agba Omer.
Mais on a retrouvé des preuves et tout.
Non, c'est dans les textes. Hein ?
33, c'est pas la moitié.
Pourquoi c'est pas la moitié ?
49.
Mi Pesach, Vat Pro Satseret.
Tu prends
en compte. Ouais. Donc il te dit, c'est Yud Chet Beyar, Paskou Milamut. Top, nous. Amar Rafchama Bar Abba, Veitema Rabichia Baravin. Kulam Metu, Mita Ra'a. La Braïta de Yevamot vient nous expliquer comment ils sont morts. Ils sont morts, Mita Ra'a. Mauvaise mort. Bon, je ne sais pas ce que c'est.
Certainement quelque chose de...
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Rav Nachman, lui, sait. Maïhi, Amar Rav Nachman, Askara. Ok ? Tant mort. Là, on va un petit peu faire preuve de limou. Justement, tant mort. La Gemara nous a dit, ils sont tous morts, Mita Ra'a, une mauvaise mort. Top. Ça, c'est la Braïta qui nous dit ça. La Braïta, c'est donc écrit par des Tanaïm, on va dire maximum 70-80 ans après les événements. D'accord ? Eux, ils disent, ils sont morts d'une mauvaise mort. Rav Nachman, qui vit 300 ans après, il dit, c'est Askara. C'est ça, cette mauvaise mort. Ok. Mais est-ce que je ne saurais pas de la Gemara elle-même qu'est-ce que c'est une mauvaise mort ? Sans que j'ai besoin de Rav Nachman. C'est pour ça que je vous ai amené à la source numéro 6. Dans la Gemara, dans ma Maseret Sanhedrin, on va nous parler là-bas de quand le Bet Din, il condamne quelqu'un à mort. Alors, même s'il a été condamné à mort, le mec, il reste quand même sous le coup de la mitzvah de Ve'aftal Re'acha Kamocha, même si tu l'as condamné à mort. Et donc, on dit la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Kra, Ve'aftal Re'acha Kamocha, Beror Lo Mita Yafa. C'est quoi l'inverse de Mita Yafa? C'est Mita Ra'a. C'est-à-dire? Donc, Mita Ra'a, que nous a dit qu'ils sont tous morts les élèves de Rabbi Akiva, c'est l'inverse de Mita Yafa. Que quand tu dois condamner quelqu'un à mort, c'est Mita Yafa. Ok, c'est-à-dire? Leima de Rav Nachman Tanaehi, lo de Kule Alma, itlei Rav de Rav Nachman, veika baika miflege, mar savar bizyoine de inche adife le, tfe meniche de goufe. Omar Savar, Nire de Goufe, Adif Mibizyoin. Donc, c'est quoi une mita yafa? C'est une mita shelo mevaza et adam. Il y a une mort qui fait honte à l'homme. C'est quoi cette mort qui fait honte à l'homme? Zemitat Kherev. L'épée. Pourquoi c'est une mort qui fait honte à l'homme? Après, ça fait des trous. Ça fait des trous dans le corps.
Ah ouais.
L'épée.
Les boyaux qui sortent.
Bah, c'est pas très esthétique. Et une fois que tu vas enterrer le mort, c'est bizayon. Il y a des trous partout dans son corps. Bizayon. Donc, mita yafa, c'est une mita qui fait pas honte à l'homme.
Ils sont combattus alors.
Attends. Là, on parle pas de eux. On parle de manière générale. Une mita yafa, c'est une mita qui fait pas honte à l'homme. C'est quoi une mita qui fait honte à l'homme? C'est une mita par l'épée. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Mita Ra'a. Donc, je reviens maintenant à mon Yevamot, où la Gemara m'a dit ils sont morts Mita Ra'a. C'est quoi Mita Ra'a? L'épée.
Ben oui.
Donc en fait, la Gemara, elle m'a dit ils sont tous morts par l'épée.
Ils sont morts au combat, ils ne sont pas morts de l'épidémie.
Amar Rav Nachman, Askara. Mazé Askara. Il ne nous a pas dit Rav Nachman. Rashi. 1000 ans plus tard, enfin 1000 ans par rapport à Bar Korba, mais 700 ans par rapport à Rav Nachman, qui habite en France, nous dit Askara, c'est la diphtérie. Une maladie, tu chopes une bactérie et ta trachée, elle se comprime, machin, t'arrives plus à respirer, tu meurs. Maladie qui se développe avec un manque d'hygiène fantastique. Très bien. Mais la Gemara, elle n'a pas dit diphtérie. Elle n'a pas dit non plus Mahlat Renek. Elle a dit Mita Ra'a. Rav Nachman a dit Askara. Et Rashi, il a dit Machlat Renek. On est quand même sacrément loin des événements. D'autant plus que qu'est-ce que ça veut dire Askara en araméen et en arabe? Askar, c'est l'armée. Pas Askar. Askar, c'est l'armée. En arabe. Bon, je le dis mal, hein, parce que c'est mon accent polonais. Mais...
Donc, ils sont morts.
Donc, Rabotai, comment ils sont morts? Ils sont morts à la guerre. C'est les élèves plus de tir, rappelez-moi. Il y a qu'en plus, dans les camps militaires, il y a eu une épidémie, parce que camps militaires. Je vous rappelle que toutes les épidémies dans le monde ont commencé en général dans les camps militaires. Vu l'hygiène qu'il y a dans les camps militaires, c'est pas la folie. Alors, bataille. Donc, c'est les élèves de qui, ces gens-là? De Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense que Bar Korba, c'est qui?
Le
Mashiach. Donc, ces élèves, ils vont pas participer à la guerre du Mashiach? Qui s'appelle Milchemet Mitzvah. Donc, où est-ce qu'ils sont, tous ces mecs-là? À la guerre de Bar Korba. Et donc, ils sont morts pendant la guerre de Bar Korba. Ah ouais, mais attention.
Pourquoi ils disent qu'il y a eu
ils sont morts à la guerre de Bar Korba. Chef, tu sais pourquoi leur Torah, elle ne les a pas protégés? Parce que, l'onagoukavot zébazé, c'est la raison morale de pourquoi ils sont morts. C'est pas la raison concrète de physique qui s'est passée. Et donc, c'est tout à fait logique. Et là, je viens et je dis, attends, la guerre de Bar Korba, t'es sûr? Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas 24 000 personnes qui sont morts. puisque la guerre de Bar Kokhba, c'est près d'un million de morts chez nous. Mais attendez, c'est pas un million de morts.
Un million de
c'est
morts.
Presque un million de morts, la guerre de Bar Kokhba. Mmh. Et c'est pas seulement les morts, c'est le départ en exil effectif. Parce qu'il y avait encore des juifs qui étaient là après la destruction du Beth Amikdash, et à Jérusalem, et ailleurs. Mais après Bar Kokhba, il n'y a plus de juifs à Jérusalem.
C'est 450 ans après la.
Non, putain! C'est les années 132-135. On est 65 ans après la destruction du temple.
Du premier temple.
Du deuxième.
Deuxième temple.
Ah. Ok? Vous voyez de quoi on parle?
C'est Adrien.
Donc c'est vraiment. C'est Adrien. Donc c'est un drame terrible. La ville de Jérusalem ne s'appelle plus Jérusalem, elle s'appelle Alia Capitolina. On a changé le nom de la ville en nom romain. On a changé le nom du pays. De Yehuda, ça devient Palestina. Ça y est, les Palestiniens sont arrivés. Ensuite, on va interdire aux Juifs d'habiter à Jérusalem, ou alors dans n'importe quel endroit où on pourrait voir Jérusalem. Donc on est obligé de partir de Judée. Et tout d'un coup, tu vois les rabbins, ils sont à Tibériade. Comment ça se fait qu'ils sont dans le nord? Parce qu'ils ne peuvent plus être en bas, dans Judée. Et puis attends deux secondes. Pour tout ça, c'est la fin, ça y est, c'est la fin de l'espoir de la Géoula. L'exil, c'est parti. Avec tous ces morts, pas 24 000, 1 million presque. L'exil effectif, le départ, la fin de l'espoir. Dis-moi, pour ça, tu ferais pas un peu un deuil? C'est pas une raison un tout petit peu plus importante que pour 24 000 personnes qui n'étaient pas des gens bien, qui ont mort, sont morts d'une épidémie? Franchement, pourquoi tu fais un deuil national pour 24 000 mecs qui ne méritent pas qu'on fasse un deuil pour eux? On fait un deuil pour eux parce qu'ils sont morts d'une épidémie? Ou pour un drame d'une dimension choatique.
Ça représentait combien tu,
j'ai pas, je sais pas quoi te dire. Je pense que c'est plus que en proportion que la Shoah, mais ouais, je peux pas te dire. Je sais pas exactement. Mais c'est énorme quoi qu'il arrive. Et c'est la perte de tout idéal d'indépendance. Ça y est, c'est fini. Et effectivement, ça va être fini. C'est la dernière résistance juive avant le ghetto de Varsovie. Ça a l'air. Donc vous comprenez que c'est autrement plus important. Et là tu vas me dire, ouais mais attends, d'accord, on a fait tout un tralouet pour savoir que tu n'aurais pas une source claire. Parce que moi, le limoud, c'est le limoud. Dans la source numéro 9, il y a marqué dans la Higueret de Rabbeinu Shrira Gaon, « Ve'emid Rabbi Akiva talmidim arbe, v'ayashmada, d'aynu talmilchemet bar korval, talmidim shel Rabbi Akiva v'choule. » Une ligne. C'est clair, c'est même pas... On ne discute même pas, quoi.
Il n'y a plus personne.
Il y a... Non, mais il te dit, ils sont morts, Bashmad. Mais le Kremlin de Bar Kokhba.
Ils sont morts, d'où
Bashmad. Shmad, c'est le terme utilisé dans tous les Chachamim pour parler de la guerre de Bar Kokhba, parce qu'ils ne voulaient pas citer la guerre de Bar Kokhba. C'est-à-dire, vous comprenez de quoi on parle? C'est pas shoot. C'est quand le car pas shoot.
Donc ils sont morts par
Shmad. Shmad, c'est la guerre de Bar Kokhba.
Hashmada.
Ok. Donc c'est pas shoot, quand le car. Et c'est pour ça qu'on a dit, le premier minag de l'Agba Omer, c'était quoi? Le premier véritable minag de l'Agba Omer? L'arc et les flèches. Quel rapport? Il y en a qui ont dit, parce que Rabbi Shimon, l'Agmara nous dit que, Bezmano l'onirata a keshet. Qu'à l'époque de Rabbi Shimon, on n'a pas vu l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il était tellement extraordinaire, Rabbi Shimon, que son mérite nous a protégés. Parce que vous savez bien que quand on voit un arc-en-ciel, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il voulait nous détruire, mais il se rappelle de sa promesse à Noach. Et à l'époque de Rabbi Shimon, il était tellement grand qu'il n'y avait même pas d'arc-en-ciel. Et donc, c'est tellement logique que nous, on décide de prendre un minag où on tire avec des flèches. Ben non. Justement pas. Non, le minag de tirer des flèches, nous dit le Bnei Issachar, כך יעשו בני ישראל, בני נביאים הם, שיעסקו בחץ וקשת. על פי קבלה, את מנהג ישראל אשר יורו ביום זה. והוא כן ללמד בני יהודה קשת. וסימן מסור הוא בידינו שבלג בעומר, תראה הקשת בצבע אחר והגאולה תבוא, ועל כן יורו המורים בקשת. Pourquoi est-ce qu'on a appris, pourquoi est-ce qu'on a fait le minhag de tirer l'arc et aux flèches? Pour apprendre aux juifs à se battre. Pourquoi on fait ça à l'Agba Omer? Ben parce que
c'est
de ça qu'on parle à l'Agba Omer.
C'est
ça?
Vous
n'êtes pas shoot.
C'est la mère de Yehuda Keshet, c'est
Shmuel.
C'est le de David.
Oui, c'est dans le livre de Shmuel. Mais alors pourquoi est-ce qu'on choisit ça?
C'est ça, pourquoi l'Agba Omer?
Ah, pourquoi Davka à l'Akba Omer? Bah, d'abord, parce que je t'ai dit tout à l'heure, ils sont morts ad pros ad seret. Maintenant, Chutz Mizé, il y a une source intéressante chez Dio Cassius, l'historien romain, qui va parler de cette époque-là. Il raconte que donc il y a eu la guerre contre Bar Corban, hein, et que il y a un moment donné, alors lui il dit pas l'Akba Omer évidemment, mais lui il dit que il y a une journée au début de l'été où la 22e légion romaine est rentrée dans le territoire de Bar Corban, et en une journée il n'est pas resté un seul légionnaire, il a détruit toute la 22e légion, 20 000 hommes. C'est Bar Corban. Et ça a été une victoire terrible pour les Juifs contre nous. Vers Yehoudim.
J'ai pas compris.
Il dit qu'il y a une journée au début de l'été où la 22e légion romaine est rentrée dans le territoire de Bar Corva, et en une journée, Bar Corva, il a tué tout le monde. Il n'est pas sorti un seul légionnaire. Et il dit, et les Juifs ont fait de ce jour-là un jour de fête.
Donc il rapporte.
Est-ce que c'est ça? Ça coïncide. Mais je peux pas, c'est pas du exact. Mais il y a Cholot Meod. En tout cas, le minhag de fête de l'Akba Omer n'est pas venu juste après la guerre de Bar Corva. On y a mis aussi derrière l'histoire de Rabbi Shimon. On n'aura pas le temps de voir aujourd'hui pourquoi est-ce que Rabbi Shimon à ce moment-là s'est lié à tout ça. Mais vous comprenez que l'histoire de l'Akba Omer, on n'a pas étudié le Makor 7 et 8. Le 7, on va le faire très très vite. Ve'atanya ma'aseh umetu banav shel Rabbi Akiva. On raconte l'histoire de la mort des enfants de Rabbi Akiva. Nichnesu kol Israël ve'espidu mefsped de Gadol. Tout Israël est venu faire le hesped des enfants de Rabbi Akiva. Béchan, peut-être ? Non, tout le peuple juif. Non, ça veut dire il y a plein de monde. Béchan, petit ratan, Amad Rabbi Akiva al Safsal Gadol ve'ama. Rabbi Akiva, il est monté sur un estrade et il a pris la parole. Il a dit Achenu kol bet Israël, Shemaou. Écoutez-moi. Afilu shne banim chatanim, menucham hu bishvil kavod she'asitem. Bien que mes filles c'était deux chatanim, c'est Menachem aussi.
Les deux.
Non, hein? C'est quoi
deux,
c'est
deux enfants.
Deux enfants. C'est quoi les chatanim? C'est Menachem aussi. Que vous savez tout cela. Ça fait chaud au cœur. Alors voilà. C'est quoi des chatanim? Dans la halakha, chatanim, c'est la première année du mariage.
Oui.
Maintenant, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Sauf pour un cas.
Dépend de guerre.
Remet mitzvah. Pour une guerre de mitzvah. Ouais, donc il te dit, Rabbi Akiva, ils étaient chatanim.
Dépend de la terre.
Donc comment ça se fait qu'ils sont morts? Remet mitzvah. C'est à col pashut en fait. La source numéro 8, on va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait, c'est la chavruta de Rabbi Akiva. Il a aussi des enfants qui sont morts à ce moment-là. Et oui, parce qu'ils étaient élèves de Rabbi Akiva aussi. Les enfants de Rabbi Ishmael. Et là-bas, vous voyez que c'est un peu plus long parce qu'en fait, il y a plusieurs chachamim qui se réunissent pour l'enterrement des enfants de Rabbi Ishmael, et ils disent, comme Rabbi Ishmael, c'est un Talmid Chacham, il connaît toute la Torah, venez, on ne dit pas tous la même chose. Donc venez, on se met d'accord qu'on ne dit pas tous la même chose. Et il dit, ok, très bien, et Rabbi Akiva, il termine. Il dit, moi, je termine. Moi, je parle en dernier. Et en fait, vous regarderez, c'est dommage, on n'a pas le temps de le faire, mais, enfin, je ne sais pas si vous avez le temps ou pas, mais là, il nous dit quoi? Vous voulez qu'on fasse?
Non, moi, j'ai le temps.
Tchik-tchak? On finit tchik-tchak? Mais comme ça. Tanoura Banan. כשמתו בניו של רבי ישמעאל, כן, זה אופן רבי ישמעאל סומור, נכנסו ארבע זקנים לנחמו, רבי טר, לבית, נכנסו ארבע זקנים לנחמו, יקת חוי רבן, כשמו וניו פור לפייר לניחום אבינו. זה כאילו רבן, רבי טרפון, רבי יוסי הגלילי, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא. Vous avez remarqué que c'est exactement les mêmes que notre histoire de la Haggadah?
Ben oui.
C'est cette époque-là. מלחמת בר קורבן, זה תו פרי. אמר, ורבי עקיבא, אמר להם רבי טרפון, רבי טרפון, כאילו פלוביו, אלא פחילה פרוי, לדעי, דעו לכם שחכם גדול הוא, רבי ישמעאל סנגרון חכם, הוא בקיא באגדות, היא קונית את האגדות. אל ייכנס אחד מכם לתוך דברי חברו. אתם מבינים, הוא דיפה תוסתם ממשוז. אמר רבי עקיבא, ואני אחרון. רבו עוונותינו, תחפו אבליו, התריעה רבותיו, פעם ראשונה ושנייה. דונק, היא מונטר סונדרם. אלא עובר או ניחום. נענה רבי טרפון ואמר. נענה דוזרון, זה כת חבלה, יבוא שזיר אין ורסה דנטול תנ"ך, פרופר לו הספד. ידע בוקו די ורסה. מנא, אין לכונס טוס. דונק, סי זון שזיר סולווילה. C'est parce que c'est en rapport direct avec ce qui se passe. Ok? D'accord? Iné. Nana Rabbi Tarfon Vamar. ואחיכם כל בית ישראל יפקו את השרפה. וואלה לברסה. ועלו דברים קל וחומר. ומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצווה אחת דרתי ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. מה? C'est quoi le verset qu'il a choisi? C'est le verset qui nous parle du espèce qu'on a fait sur les enfants de Aaron, Nadav et Aviou qui sont morts. Ouais. Il dit, mais quel rapport? Rabbi Ishmael, il n'est pas Cohen. Et ses enfants, ils ne sont pas Cohenim. Et Lama?
Là, se résout.
Se résout de quoi? C'est quoi? Il nous dit, les Nadav et Aviou, ils ont fait une mitzvah. C'est quoi? C'est pas ça qu'ils disent. Il dit, leur mitzvah, dirti, va écrivou ben Aaron et ta dame, alav, car, ça va être. Ils ont permis, grâce à leur action et le feu, machin, qu'on puisse faire des corbanotes. C'est-à-dire qu'ils ont permis l'inauguration du Mishkan. Il y a la Khatkama Vechama Abanav Shel Rabbi Ishmael. A fortiori, les enfants de Rabbi Ishmael. Quel rapport? Ah, quel rapport, à part le fait que Rabbi.
Dans la bagarre, ils étaient beaucoup plus.
Que pas que dans la bagarre. Oui, mais quel rapport avec les corbanotes? Parce que l'une des choses que les armées de Bar Korva ont faites, c'est de conquérir Jérusalem la première année, et ils ont recommencé les corbanotes.
Ils ont quoi?
Ils refait les corbanotes. Pour un petit temps, parce qu'après les Romains, ils sont revenus. Ah, intéressant. Deuxième rabbin qui parle. Iné. Nana Rabbi Yossi. D'accord? Nana Rabbi Yossi à Galili. Ve'amar. Ve'sabdou lo kol Israël. Ve'kavrou oto. Ve'sabdou lo kol Israël. Ve'kavrou oto. Dans le livre de Melachim. Ve'alo dvarim kal vachomer. Ou ma avia ben Yerovam. Shelo asa el adavar echad tov. Dirtiv. Ben Melachim. יאן נמצא בו דבר טוב, כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. ומהי דבר טוב? רבי זיירא ורבי חנינא בר פפא, אחד אמר שביטל משמרתו ועלה לרגל, ואחד אמר שביטל פרדסאות שהושיב ירובעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. פואן. C'est quoi le verset qu'il a choisi? C'est la comparaison du espèce qu'on a fait à Avia ben Yerovam. Et quel rapport avec les enfants de Rabbi Ishmael? Il se dit, Avia ben Yerovam, il a fait un truc bien dans sa vie. Le fils de Yerovam ben Nevat, celui qui a fait le schisme. Et bien Yerovam ben Nevat, il a fait le schisme, le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda, et il a fait un truc pour s'assurer que les gens du nord ne viennent pas à Jérusalem. Il a mis des murs sur les chemins qui empêchent des barrages, qui empêchent les juifs du nord de venir à Jérusalem.
Là,
en l'occurrence, c'est des points de passage. Des points de des gardiens, un checkpoint. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il se dit, si les gens ils viennent à Jérusalem pour les fêtes, alors ils ne reviendront plus. Son fils, Avia ben Yerovam, qui n'était pas un sadique, mais il a fait un truc bien dans sa vie, il a enlevé ça. Il a permis aux gens de revenir à Jérusalem. Comme de par hasard, c'est ce verset-là qu'il a choisi, comme de par hasard, Adrien a mis en place des checkpoints romains pour arriver à Jérusalem. Et les armées de Bar Korba ont enlevé ces checkpoints-là.
Ah ouais.
Ok. Ensuite, troisième rabbin qui parle. Nana Rabbi. Il est. Nana Rabbi Elazar ben Azaria. Ve'ama. Dans le livre de Yirmayahu. Bishalom tamut o bimisrefot avotecha, melachim arishonim, asher hayu lefanecha. Ken yisrefun lach. ועלו דברים קל וחומר. ומה צדקיהו מלך יהודה, שלא עשה אלא דבר אחד טוב, מצווה אחת. שאלה ירמיהו מן התית, כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. C'est quoi, lui, son verset à Rabbi Elazar ben Azaria? C'est le verset qui parle de Tzidkiyahu, le dernier roi de Judée, qui a fait un truc bien, c'est de sortir Jérémie de la prison. Le prophète Jérémie, il a été en prison. Qui l'a mis dans cette prison? Lui-même, Tzidkiyahu, quand il a dit les prophéties de destruction de Jérusalem. Et quand est-ce qu'il a décidé de l'en sortir? C'est quand Jérémie, depuis la prison, il a donné les prophéties de Nechama, de la fin de Megillat Echa, qu'on va sortir d'exil. Ah, il l'a sorti à ce moment-là. Ah, tiens, comme de par hasard, c'est ça qu'on utilise pour les enfants de Rabbi Ishmael qui participent à la guerre de Bar Korba. Et enfin, Nana Rabbi Akiva, Ve'amar, Bayom Ahu Yigdal Amispet Birushalayim Ke Mispet Adad Rimon Bebikat Megiddo. Il a dit un verset dans Zecharia, que viendra un jour où il y aura un grand esped à Jérusalem, comme le espèd de Hadad Rimon dans la vallée de Megiddo. Voilà le verset dans Zecharia. Nous dit la Gemara, Ve'amar Rav Yosef, il malet argumei, d'haïkra, lo ave yadan amei. Maïka Amar, c'est ça. Si on n'avait pas le targum de Yonatan Ben Uziel, on ne saurait pas ce que ce verset veut dire. Ça veut dire quoi? Il y aura un grand espèd, comme le espèce d'Adrimon à la vallée de Megiddo. C'est de quoi on parle. Et donc il nous dit, Jonathan Ben Uziel, c'est quoi? David Naou, Yasgei Mespeda d'Yerushalem, que Mespeda d'Achav bar Omri de Katal Yate, Adadrimon ben Tavrimon, ou que Mespeda de Yoshiar bar Amon, de Katal Yate paro, Chagira bebikat Megiddo. ועל עוד דברים כלבח חומר, ומה יחב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר טוב, דרתיב המלך היה מעמד במרכבה, נכח ארם כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. Si les trois premiers, ils sont, il faut savoir des choses pour le rattacher à une histoire de guerre, le dernier Rabbi Akiva, il est clair. C'est quoi son verset? Il dit voilà, il y aura un jour où il y aura un grand esped. Ce esped, ce sera le esped d'un monsieur qui s'appelle Adad Rimon dans la vallée de Megiddo. Ça veut rien dire. Parce qu'il n'y a jamais eu de respect d'un monsieur qui s'appelle Adad Rimon dans la vallée de Megiddo. Mais Yonatan Ben Uziel nous dit, voilà, je t'explique ce qu'il veut dire le verset. Il est volontairement Satoum. Il y viendra un jour où il y aura un respect énorme, comme le respect qu'il y a eu de Achav, Melech Israël, qui est mort par Adad Rimon Ben Tavrimon. Et il y a un autre respect d'un autre roi qui s'appelle Yoshiaou Melech Yehuda, qui a été tué par Paro Necho dans la vallée de Megiddo. Donc en fait, il a fait un mix de deux événements dans le verset de Zecharia. C'est-à-dire
un cours du
Rav Kling là-dessus. Ah ouais? Et ben voilà. Donc il y a un cours du Rav Kling. Ben Simcha. Et maintenant, c'est quoi cette histoire-là? La Gemara elle me dit, mais ça va être l'espèce de qui? La Gemara elle dit, c'est l'espèce du Mashiach. Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Rabbi Akiva, il dit, tes enfants, ils sont morts dans la guerre du Mashiach. Et de la même façon que Achav, il a fait un truc bien. C'est quoi? C'est qu'il est resté debout sur son char, même quand il a pris une flèche dans le ventre. Il était en train de mourir, mais il a dit à son écuyer de le scotcher debout sur le char pour pas que le peuple juif le voie tomber, parce qu'à ce moment, ils auraient perdu la guerre. Mais pour la victoire de la guerre, alors mets-moi debout et je mourrai debout. Et c'est ça le verset qu'il choisit pour parler des enfants de Rabbi Ishmael. Est-ce qu'on a besoin de plus de preuves pour que ce soit une évidence qu'ils sont morts à la guerre de Bar Korva? Donc la guerre de Bar Korva, ça a été un drame fantastique, mais dans le mauvais sens. Ça, c'était absolument incroyable. Bien plus que le drame de la destruction du deuxième temple. La destruction du Beth Amikdash, c'était un drame. Flavius Joseph, il parle d'un 500 000 de morts. C'était terrible. Destruction du Beth Amikdash. Ouais, mais au final, les Juifs, ils ont beaucoup moins mal vécu la destruction du Beth Amikdash et la grande révolte que la guerre de Bar Korba. D'où je sais? Vous connaissez les gens qui ont survécu la Shoah? Il y en a plein qui n'ont pas voulu parler après. On voulait oublier, on voulait mettre de côté. On voulait pas en parler. Nachon. Bah, pareil, exactement. La Gemara, elle parle de l'histoire de la destruction du Beth Amikdash. En veux-tu, en voilà, et en veux-tu, et en revoilà. La Gemara, elle ne parle pas, jamais, deux lignes et demie sur la guerre de Bar Korba. Il y a une vraie volonté de ça, on n'en parle pas, ça, on met de côté. C'est trop dur. Mais Bémet, c'est trop dur. Mais Enmala Asot.
Mais pourquoi? À cause de la responsabilité, à cause de l'histoire.
À cause du drame, de la conséquence de tout ça.
Non, mais s'il y a eu un drame, d'où on sait ça?
Ah, bah parce qu'il y a d'autres. D'abord, il y a d'autres sources.
Si y a eu
chez les Romains, il y a des sources. Bah, sources historiques, il n'y a pas besoin de pas s'en faire, surtout quand c'est contre eux. C'est-à-dire, si déjà ils écrivent des choses contre eux, il n'y a pas de raison de pacifier. Et puis, Routz disait que oui, c'est transmis, ça a été quand même transmis. Et tu vois qu'après le Talmud, bah, les gens, ils en ont parlé. Agave, la Gemara, elle dit elle-même, parce qu'il y a des fois où oui, on en parle. La Gemara, elle dit elle-même que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il parlait de Beitar, donc du dernier bastion qui est tombé à Mefem Bar Korba, quand il parlait de Beitar, il racontait, et là je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais disons, je crois qu'il donnait 75 explications sur la chute de Beta. Et Rabbi Yochanan, lui, il donnait 100 et quelques explications. Et la Gemara, elle se pose la question, il dit, comment c'est possible que Rabbi Yochanan, il connaisse mieux que Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, il est Tana, Rabbi Yochanan, il est Amora. Normalement, c'est moins grand. Alors comment ça se fait? La Gemara, elle répond, il ne croit pas que c'est parce qu'il connaissait plus. C'est juste qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il y avait encore des vieux dans la synagogue qui avaient vécu Bétard. Et que donc, quand il commençait à parler, il s'effondrait en larmes. Et donc, à un moment donné, il s'arrêtait de parler, pas parce qu'il n'avait plus rien à dire, parce qu'il disait c'est trop dur, ils ne peuvent pas supporter ça. À l'époque de Rabbi Yochanan, encore une génération et demie plus tard, il n'y avait plus aucun survivant de l'époque de Bétard, et donc il pouvait raconter. Donc, Rabotai, ça a été un traumatisme terrible. Et donc, évidemment, qu'un deuil national pour la perte de l'idéal national, du rêve du retour, machin, oui, là je comprends. Là, je comprends.
Ça s'est passé en 135, ça ?
Oui.
Après,
135.
Ce qui est dommage, c'est qu'Adrien est mort 3 ans après. Il est mort en 136.
Manassé. Maintenant, vous comprenez donc pourquoi il y a eu un deuil. Vous comprenez aussi pourquoi le Rav Cherki, le Rav Dov Lior et d'autres rabbinim, ils pensent qu'il faudrait annuler la Avelout de Sfirata Omer. pourquoi il faudrait annuler la veloute de Sfirat HaOmer? Parce que là où eux ils ont échoué, on a réussi. Ça y est, on est là. Et on a réussi. Donc il faudrait redonner à Sfirat HaOmer ce qu'on a dit au tout début, sa grandeur. Sa grandeur de quoi? Eh bien que c'est des moments de simcha qui nous permettent de nous préparer à recevoir la Torah. C'est-à-dire, on n'est pas encore le grand rabbinat d'Israël, donc on n'a pas encore annulé.
C'est qui doit être bessimra dans cette période-là.
Mais voilà, non, juste, une dernière chose, attends, juste une dernière chose, si tu me permets, comme ça pour le kiff, pour le fun. Ouais. Parmi les peu d'informations qu'on a sur Bar Kokhba, une des choses qu'on raconte sur lui, c'est qu'il était extrêmement fort.
Rabbi
Akiva, c'était ça, c'est parce que
tu
es venu en retard.
Parce qu'il
était très fort, mais il avait une force surhumaine, une force beaucoup plus importante que la normale, à tel point qu'on raconte sur lui, c'est comme ça qu'on voit dans les Midrashim, que lorsque les Romains ils balançaient des catapultes, des grosses pierres catapultées, ils les rattrapaient et ils les rebalançaient sur les Romains, et ça les faisait mourir. Rabbi Akiva, vous savez que son nom, c'est pas Bar Kokhba, son nom, c'est Ben Kosva. Shimon Ben Kosva. Ok? Parce qu'il vient du village de Kosva.
Ah, c'est de là que tu es au moment là.
Mais attends, Rabbi Akiva. T'as raison, sûrement. Et Rabbi Akiva, il va le renommer Bar Kokhba. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est le Mashiach. Et que dans la névoa de Sefer Bamidbar, il y a marqué Darar Kochav Miyakov. D'accord? Donc, l'un des noms du Mashiach, c'est Kochav, son symbole. Donc, Bar Kokhba qui pense. Rabbi Akiva qui pense que Bar Kosva, c'est le Mashiach, il l'appelle Bar Kokhba. Et il se bat seul et contre tous contre l'invasion de l'Empire romain.
Moi, j'en voulais dire.
Et il a un rave, Rabbi Akiva. Comment je sais que c'est vraiment le rave de Bar Kokhba? Comment je sais? Mais comment je sais que Bar Kokhba pense que Rabbi Akiva c'est son rave? Comment je sais? Parce qu'on a retrouvé des pièces de monnaie. On a retrouvé les pièces de monnaie qu'a frappé Bar Kokhba. Et dans ces pièces de monnaie, au-delà du fait qu'il y a le Beth Amikdash sur une face, l'autre face c'est quoi? Non, alors on aurait pu mettre là, mais non, on fait pas des représentations chez nous. Mais il y a Arbat Aminim. Arbat Aminim, les quatre minimes de Sukkot seulement. Il y a un Lulav, un Etrog, un Hadas et un Arava. C'est pas là, Alakha.
Non.
C'est la vie de Rabbi Akiva.
Ah.
C'est la vie de Rabbi Akiva dans la Mishnah, quoi. C'est-à-dire, donc il a imprimé la vie de son maître dans les pièces de monnaie. C'est-à-dire, l'ostam. Alors attendez, donc on a un mec qui est très très fort, tellement il est fort qu'il balance des grosses pierres sur les Romains, et il s'appelle Bar Kokhba, le fils de l'étoile. Ah oui, le fils de l'étoile, la technologie. Le fils de l'étoile, Nahon. Et il est entouré de tous les Romains, et il se bat seul et contre tout, contre l'envahisseur. Et en plus de ça, il a un rave à côté de lui, qui fait rien sans lui et qui l'aide à avancer. Ça me rappelle quelque chose. Il y avait un rave à Varsovie qui est mort juste avant la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait le rave Avraham. Le rave Avraham, il était bon, rave, communautaire, ce que tu veux, mais était surtout passionné d'histoire. Il a transmis ça à ses enfants, j'imagine. Non, les enfants du rave Avraham, ils n'ont pas suivi la Torah, ils sont partis de Pologne, ils sont partis en France, en Argentine, aux États-Unis, ils sont baladés un peu, et ils ont abandonné la Torah, mais l'histoire, et l'histoire juive, et ce que leur père leur avait raconté, alors ils croient Shabbat, ils n'ont pas gardé, mais les histoires juives, ils ont gardé. Et donc le papa, il a transmis à son fils aussi plus tard. Et son fils plus tard, eh bien, il va décider d'inventer une histoire, de raconter une histoire. Bon, le Rav Avraham, en l'occurrence, il s'appelait le Rav Avraham Goscinny. Et son petit-fils, il s'appelle René Goscinny, qui invente une histoire où le héros il s'appelle Étoile, Astérix c'est une étoile, et qui va de pair avec son compère qui balance des grosses pierres sur les Romains, et ils sont entourés de tous les le petit village qui se bat encore et toujours contre l'envahisseur, contre les Romains, et il a un rave qui prépare une potion magique qui s'appelle la Torah, et il a une grande barbe, je sais pas, avec lui il a une grande barbe, je sais pas, on n'a pas de photo. Et donc oui, les amis, les histoires, les aventures d'Astérix, c'est une machal de Milchemet Bar Kokhba contre les Romains. Et ça, on peut rentrer chez nous.
Bon, je voulais dire simplement, ceux qui doivent être heureux, contents, c'est les agriculteurs, parce que ça pousse, et ils vont récolter, alors ils sont contents.
Tu as raison. Amen.
Amen.